l'Église orthodoxe aujourd'hui. Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un recueil d'entretiens que je réalisais à diverses occasions avec Mgr Calisto Swear, importante personnalité de la spiritualité orthodoxe contemporaine. Diffusée au mois de juin, cette émission a été remarquée par Sœur Elisabeth de Bruxelles, qui m'a demandé l'accord de publier ses entretiens dans la revue Diaconia, le bulletin de la fraternité orthodoxe Tous les Saints de Belgique. Je suis particulièrement content que ce dialogue, qui porte aussi parmi d'autres sur l'euthanasie, vient de paraître ainsi dans le dernier numéro d'une revue orthodoxe belge, dans un pays où cette manière de terminer sa vie a été légalisée. Je vous invite donc à écouter ou à réécouter Mgr Calisto Swear. Né en 1934 dans une famille anglicaine, Timothy Ware a découvert de sa jeunesse l'Église orthodoxe, qu'il a rejoint à l'âge de 23 ans. Ensuite, en devenant moine orthodoxe, il a reçu le nom de Calistos. Après avoir fait des études en langue classique et un doctorat en théologie à l'université d'Oxford, il a donné des cours d'études orthodoxes orientales à la faculté de théologie de la même université. En 1982, il a été ordonné évêque auxiliaire de Dioclea, au service du diocèse grec de Grande-Bretagne. Le 30 mars 2007, le Saint-Synode du patriarcat œcuménique de Constantinople l'a promu à l'unanimité métropolite de Dioclea. Actuellement, le métropolite Calistos est coprésident de la commission mixte de dialogue théologique entre orthodoxes et anglicans. Théologien de renom, il est auteur de plusieurs classiques de la littérature orthodoxe qui allient souffle spirituel et clarté pédagogique. Mgr Calistos Ware a donné à Paris une conférence magistrale sur le thème « La transfiguration du Christ et la souffrance du monde ». J'ai d'abord demandé à Mgr Calistos de nous dire comment il a découvert l'orthodoxie.
Mon première rencontre avec l'orthodoxie, c'était quand j'avais 17 ans. Je suis allé par hasard, ou plutôt par providence divine, à l'église russe à Londres. Mais je ne savais pas que c'est une église russe. Je suis allé seulement par curiosité. C'était samedi après-midi, quand je suis entré dans l'église, il y avait l'office des vigiles, et j'ai compris que ce doit être une église russe, même si je n'ai pas compris les mots de l'office, parce que tout était en vieux slavon. C'était l'année 52. J'étais très impressionné de cet office. J'ai trouvé que les vigiles, pour moi, étaient vraiment une révélation du royaume des cieux. J'ai vraiment senti que l'Église en prière est le ciel sur la terre. Et nous n'étions pas beaucoup du monde, une très petite congrégation des personnes âgées. J'ai compris que nous prenons partie dans une action beaucoup plus grande que nous. Et de ce moment-là, j'ai voulu devenir orthodoxe. Mon premier contact, c'est-à-dire avec l'orthodoxie, n'était pas avec les livres, ni avec des contacts sociaux avec des personnes orthodoxes, mais c'était un contact avec la vie liturgique que l'orthodoxie. Et je pense que cela est la meilleure porte d'entrée. Alors je suis attendu 6 années avant de devenir orthodoxe. Je ne suis pas devenu immédiatement. Ce n'était pas très facile pour des Anglais de devenir orthodoxe à cette époque-là. Maintenant, en Angleterre, nous avons plus que 50 prêtres orthodoxes d'origine anglaise. Mais pendant les années 50, il y avait peut-être un seul prêtre anglais orthodoxe. Et à cause de cela, c'était assez difficile d'entrer. Mais j'ai insisté, et alors je suis reçu dans la cathédrale grecque à Londres, en l'an 58. Après de devenir orthodoxe, j'ai terminé mon doctorat dans l'université à Oxford sur l'histoire du monachisme ancien et surtout sur les œuvres de Marc Lemoine. Et j'ai connu le nouveau archevêque orthodoxe grec qui est venu en Angleterre en 64, Athénagoras. Je suis devenu son secrétaire pour les choses anglaises. Il m'a ordonné diacre. Je suis allé pour une année à Patmos, au monastère de Saint-Jean le théologien. Là, je suis devenu moine. Et après, en l'an 66, je suis revenu à Oxford comme lecteur pour les études orthodoxes dans l'université. Et on m'a ordonné prêtre. J'ai fondé la paroisse grecque à Oxford, mais nous avons eu toujours une coopération très étroite avec la paroisse russe. Et ensemble, les deux paroisses, nous avons construit une église en 73. Et je suis resté à Oxford comme professeur pour 35 années. Maintenant, je suis à la retraite, mais je continue à être évêque dans l'archidiocèse grec. Et je voyage en Angleterre à des paroisses anglophones dans notre archidiocèse.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Monseigneur Callistos, vous avez écrit de nombreux ouvrages de théologie orthodoxe, vous avez approfondi les écrits patristiques et vous avez essayé d'actualiser leurs réponses par rapport à notre époque contemporaine. Quel est le sujet qui vous est le plus cher parmi toutes ces recherches que vous avez entreprises dans la théologie orthodoxe?
Ce qui est la chose la plus précieuse pour moi, c'est la tradition de la théologie mystique, la philokalie, la prière de Jésus, l'invocation du Saint-Homme, et la théologie de Byzance au XIVe siècle, la renaissance hésychaste au XVIIIe siècle. Ce sont les sujets que m'ont attiré le plus. J'ai fait mes études pour le doctorat à Oxford sur Marc Lemoine, qui n'est pas bien connu, mais il est un père très intéressant. Et Marc Lemoine insiste sur la liberté de la conscience, qu'on doit écouter sa propre conscience. Sois attentif à ta conscience, il dit. Mais aussi, nous avons dans l'orthodoxie la tradition de la paternité spirituelle. Comment réconcilier ces deux choses, obéissance à un père spirituel ou une mère spirituelle, parce que ce ministère est exercé par des femmes également avec des hommes. Mais comment réconcilier cela, obéissance au Père spirituel,
avec la liberté de conscience. Et c'est bien possible, mais il faut insister sur les deux choses.
Vous avez donné une conférence magistrale sur le thème « La transfiguration du Christ et la souffrance du monde ». Je vous prie de nous parler sur la relation qu'il y a entre la transfiguration du Christ et la souffrance.
Oui, dans ma conférence, j'ai posé cette question. Si nous parlons de la beauté divine, si nous parlons de la gloire de la transfiguration, qu'est-ce que c'est que cela dit à nous dans un monde plein de souffrances innocentes et de désespoir? Et dans ma conférence, j'ai insisté sur le lien entre les deux collines, Tabor et Golgotha, que la transfiguration doit être comprise dans la lumière de la croix. Il y a un seul mystère, mystère de gloire, mystère de sacrifice et de souffrance. Alors, j'ai trouvé dans le récit de la transfiguration assez de références à la crucifixion. Et j'ai dit que ici, nous trouvons la vraie réponse au mystère de la souffrance innocente. Le Christ, qui est le Seigneur de gloire, souffre avec nous dans la crucifixion. Et il faut voir ces deux choses ensemble, la transfiguration et la crucifixion. Celui qui souffre est vraiment homme, mais il est aussi le Seigneur de la gloire éternelle.
Vous avez parlé de la transfiguration, pas seulement dans le sens de la transfiguration du Christ, mais aussi dans le sens que par son sacrifice sur la croix, il a transfiguré la souffrance.
Oui.
Et il a ouvert la porte vers la résurrection.
Oui.
Comment on peut comprendre cette transfiguration de la souffrance par le fait que celui qui souffre sait assumer cette souffrance?
Oui, je voudrais insister sur le mot « mystère » que j'ai utilisé. Parce que le mal, la souffrance innocente, ce n'est pas seulement un problème qui peut trouver sa solution avec la pensée claire et la logique. C'est un mystère et nous pouvons comprendre un peu le mystère de la souffrance seulement si nous sommes impliqués dans cela, seulement par la participation et par la compassion. Alors exactement, c'est le sens de la crucifixion, que celui qui est vrai Dieu de vrai Dieu, consubstantiel avec le Père, est devenu homme. Et comme Dieu incarné, il a accepté notre souffrance, sur ses épaules. Il souffre avec nous. Nous ne sommes pas seuls, jamais. Nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance. Parce que Dieu lui-même, Dieu incarné, partage notre souffrance. Mais cette souffrance peut être transfigurée parce que celui qui souffre avec nous n'est pas seulement un homme comme nous, mais il est aussi Dieu. Et à cause de cela, par la souffrance du Dieu incarné, nos souffrances sont transfigurées. J'ai donné comme titre à ma conférence « La transfiguration du Christ et la souffrance du monde ». Mais c'était bien possible de donner un autre titre « La souffrance du Christ et la transfiguration du monde ». Comme nous disons, nous les orthodoxes, chaque dimanche à matin à Orthros, par la croix, joie est venue à tout le monde. Par la croix, il n'y a pas d'autre chemin. Mais par la croix, joie et gloire vient dans notre vie. Comme cela, la beauté divine, c'est aussi la beauté d'un Dieu qui s'incarne et souffre avec nous.
Monseigneur Callistos, on a compris que par son sacrifice sur la croix, le Christ nous a montré la voie à suivre dans la souffrance, assumer la souffrance pour pouvoir le transfigurer par l'aide du Christ lui-même qui souffre avec chacun d'entre nous. La société contemporaine nous propose une autre voie aujourd'hui par cette nouvelle loi qui concerne l'euthanasie, l'acceptation de l'euthanasie. C'est la voie du refus et de la souffrance et le choix de la mort. Du point de vue de l'Église orthodoxe, comment voyez-vous ce choix qui est maintenant posé devant les fidèles?
Bien entendu, comme orthodoxe, je suis tout à fait contre l'euthanasie. Nous n'avons pas le droit de terminer notre vie. Ça, c'est une décision qui dépend seulement du Dieu. La vie, même la vie avec beaucoup de souffrance, c'est toujours un don de Dieu et on ne doit pas rejeter ce don. Mais la souffrance en soi-même n'est pas bonne. Et si nous pouvons, sans compromis, éviter la souffrance, par exemple avec les soins médicaux, c'est très bon. Être médecin, c'est une vraie vocation chrétienne. Et partout, l'Église a fondé des hôpitaux avant que l'État ait fait cela. Mais il y a des souffrances qu'on ne peut pas éviter. On doit les accepter. Et si nous pouvons accepter la souffrance, tout est transformé. Tout est transfiguré. La souffrance peut devenir créatrice en soi-même, c'est un mal, mais avec la prière, avec l'amour chrétien, avec ce geste intérieur d'acceptation, offrir nos souffrances au Christ en union avec la croix, qui est très difficile, alors nous pouvons transfigurer la souffrance. Et ça, c'est la vraie voie. Pas de terminer notre vie, mais de faire de notre vie un sacrifice vivant au Dieu. Tout peut être transfiguré, mais seulement avec la croix.
Thank you.
la conférence intitulée « Le monde ancien est passé, maintenant tout est nouveau ». Conférence donnée par Mgr Callisto Swear a particulièrement marqué les participants du 12e congrès orthodoxe d'Europe occidentale à Blankenberg en Belgique. En parlant du renouvellement de l'Église orthodoxe, il a cité Martin Luther en disant que l'Église se réforme toujours. À la fin de la conférence, je demandais à Mgr Callistos de préciser ce qu'il comprend par ce renouvellement par rapport à la tradition de l'Église, pour éviter la confusion avec des notions comme la réforme et l'aggiornamento qui sont étrangers à l'esprit de l'orthodoxie. Il a répété sa réponse durant cet entretien où il a fait l'effort de s'exprimer en français pour les auditeurs de l'émission « L'Église orthodoxe aujourd'hui ». Je lui ai demandé d'abord de nous résumer l'essentiel du contenu de sa conférence.
Alors, j'ai parlé sur le thème principal du congrès, les mots du Christ ressuscité dans l'Apocalypse. Voici, je fais toute chose nouvelle. Et j'ai insisté que la nouveauté que le Christ nous apporte, c'est surtout que sa présence, son témoignage, nous ouvre à l'âge à venir, le siècle à venir, que son message est quelque chose d'eschatologique, que sa présence vient d'un autre monde, monde d'éternité, mais dans le temps. Et à cause de cela, le Christ fait toute chose exister d'une façon nouvelle, tout est transformé, transfiguré, déifié. Et j'ai dit que la chose par excellence qui est nouvelle, c'est la résurrection du Christ des morts. Ça signifie que la résurrection n'est pas seulement un événement dans le premier jour, mais dans le huitième jour, le jour d'éternité. Et dès sa résurrection, nous avons la présence de la parousie, le dernier avènement du Christ, ici, présent à ce moment aussi. Et en conclusion, j'ai insisté sur les mots dans la Sainte Liturgie. Ce qui est à toi, nous offrons à toi dans toutes les choses et pour toutes les choses. J'ai insisté pour expérimenter toutes choses comme nouvelles. C'est nécessaire de faire de notre vie et de toute la création une offrande eucharistique, parce que l'homme, ce n'est pas seulement un animal politique ou rational, mais l'homme est surtout un animal eucharistique qui peut être prêtre de la création. Mais on ne peut pas faire de la création une offrande eucharistique sans sacrifice et son amour.
À la fin de votre conférence, des personnes du public ont posé des questions, ont fait des interventions. Laquelle vous avez trouvé qui était la plus intéressante?
Alors, très justement, on a dit oui, le Christ ressuscité fait toute chose nouvelle, mais il y a aussi la tradition dans l'orthodoxie. Et j'ai dit en réponse que la transfiguration que le Christ nous apporte, ce n'est pas une innovation. Et j'ai dit aussi que la tradition, ce n'est pas seulement suivre ce qu'on a fait et ce qu'on a dit dans le passé. Tu disais les mots du Vladimir Lossky, que la tradition, c'est la vie de l'Esprit Saint dans l'Église. Alors, la tradition, c'est une vie, c'est un principe de rénovation et pas seulement de conservation. Et c'est exactement la vie de l'Esprit que la tradition vient avec l'Esprit Saint qui est esprit de liberté. On a parlé aussi du question si c'est possible d'avoir des dogmes nouveaux. Et j'ai dit, l'Église a toujours le pouvoir de formuler des nouveaux dogmes, même si dans l'orthodoxie aujourd'hui, nous ne voyons pas la nécessité de cela. Mais les dogmes n'ajoutent pas à la foi, ils expliquent seulement la foi. Depuis le temps des apôtres, il y avait dans l'Église la plénitude de la foi. Mais dans chaque génération, nous devons vivre cette plénitude d'une façon nouvelle.
Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par le chœur des moines des monastères Simonos Petraou Moatos et Saint-Antoine le Grand dans le Vercors et par la chorale Saint-Jean d'Amassène de Paris. Nous vous souhaitons une semaine emplie de joie spirituelle. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguin 98 FM et dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM.